Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Deux pétroliers attaqués en mer d'Oman. Les Américains accusent l'Iran un mois après un incident similaire dans le golfe Persique. La correspondance de Grégory Phillips à Washington dans un instant. Nathalie Loiseau renonce à briguer la présidence du groupe libéral au Parlement européen. La tête de liste de La République En Marche avait violemment critiqué plusieurs de ses collègues. Les explications à venir de Pierre Benazé. 7 ans de prison ferme requis contre Patrick Balkany avec mandat de dépôt à l'audience pour le maire de Levallois, jugé pour blanchiment et corruption. La parole est maintenant à la Défense. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm. Nicole Belloubet ne veut plus poursuivre les mineurs délinquants de moins de 13 ans au nom de l'irresponsabilité pénale. Le projet de la ministre de la Justice fait polémique. Nous en parlerons avec notre invité, l'ancien magistrat Philippe Bilger. Les États-Unis en sont convaincus. L'Iran est responsable des attaques menées aujourd'hui contre des bateaux pétroliers en mer d'Oman, en plein golfe Persique. Ce sont 2 tankers, un Norvégien et un Japonais, qui ont été pris pour cible. Il n'y a pas de blessés, mais les Iraniens affirment avoir secouru 40 de marins. Quant à la nature de ces attaques, elles restent floues. Les témoins évoquent des explosions à bord des bateaux. Nous sommes en ligne avec Grégory Phillips à Washington. Bonsoir.
Bonsoir.
Grégory, les accusations américaines contre l'Iran proviennent du secrétaire d'État Mike Pompeo.
Oui, une conférence de presse de 4 minutes au département d'État pour dire que, aux yeux du gouvernement américain, la République islamique d'Iran est bien responsable de ces attaques. Pompeo fait référence à des informations récoltées par les services de renseignement, mais le chef de la diplomatie américaine ne montre aucune preuve, aucune image. En revanche, il dit que dans cette région, seul Téhéran est capable de mener des attaques aussi sophistiquées. Pour Washington, il n'y a donc aucun doute, l'Iran menace clairement la paix et la sécurité internationale. Au même moment, Donald Trump écrivait sur Twitter qu'il est encore trop tôt pour envisager un accord avec les Iraniens. Ils ne sont pas prêts et nous non plus, estime le président américain, alors que le premier ministre japonais Abe était à Téhéran aujourd'hui pour tenter d'amorcer un dialogue. Ce soir, enfin, à New York, réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, prévient « Le monde ne peut pas se permettre une confrontation majeure dans la région du Golfe ».
Grégory Phillips en direct de Washington. Quant à l'Union européenne, elle appelle à une retenue maximale pour éviter une escalade dans la région. Les cours mondiaux du pétrole ont grimpé d'environ 3% immédiatement après l'annonce de l'attaque en mer d'Oman. L'expérience européenne de Nathalie Loiseau commence mal. La tête de liste macroniste au scrutin européen ne présidera pas le groupe des libéraux au Parlement de Strasbourg. Elle paye la polémique suscitée par ses propos tenus en off devant quelques journalistes la semaine dernière. Nathalie Loiseau avait qualifié l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt de vieux de la vieille, qui aurait des frustrations rentrées depuis 15 ans. Il fait pourtant partie de son groupe. Quant au leader de la droite conservatrice, l'Allemand Manfred Weber, ce serait un ectoplasme selon Nathalie Loiseau. Pierre Benazé nous appelle de Bruxelles.
C'est confirmé, Nathalie Loiseau renonce à briguer la présidence du groupe qui s'appelle désormais Renew Europe. Il faut dire qu'elle était en porte-à-faux face aux chefs de file des autres délégations nationales. Depuis la révélation de ses propos peu amènes à leur égard, ils avaient cependant décidé de se serrer les coudes et de faire bonne figure face à la polémique que tous affirmaient encore hier ne pas avoir d'impact ni sur l'atmosphère au sein de Renew Europe, ni sur la course à la présidence du groupe. Et le renoncement de Nathalie Loiseau est avant tout présenté comme stratégique, car les candidats à la présidence se sont multipliés cette semaine, un Suédois, une Néerlandaise, un Roumain par exemple. La délégation française, forte de 21 députés, reste la plus nombreuse de ce groupe, qui devrait compter entre 106 et 109 sièges. Du coup, les élus européens de La République En Marche gardaient mathématiquement toutes les chances de décrocher la présidence. Ils ont préféré ne pas présenter d'autres candidats français pour ne pas avoir à concéder trop de contreparties à leurs partenaires. Ils peuvent ainsi se positionner pour obtenir une ou plusieurs présidences de commissions parlementaires, et ceci pourrait d'ailleurs permettre à Nathalie Loiseau de décrocher un autre poste à responsabilité au Parlement européen.
Patrick Balkany est désormais sous la menace d'une incarcération à l'issue de son procès pour blanchiment et corruption. Le ministère public a requis aujourd'hui 7 ans de prison ferme contre le maire de Levallois avec mandat de dépôt à l'audience. S'agissant d'Isabelle Balkany, son épouse, une peine de 4 ans avec sursis a été demandée. Sursis requis également pour les 3 autres prévenus, dont l'homme d'affaires saoudien Mohamed Al-Jaber. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
Quel pacte avez-vous donc formé ? Interroge Arnaud Delaguiche en se tournant vers les prévenus. Les deux procureurs du parquet national financier se partagent la parole sur le rôle des uns et des autres dans les deux volets de l'accusation. Et pour le blanchiment de fraude fiscale, les chiffres donnent le vertige. 13 millions d'euros retenus par l'instruction, insiste Serge Roch. Avec Jean-Pierre Aubry, le prête-nom jusqu'au sacrifice, Arnaud Claude, le pilote de l'opération dont la responsabilité est aggravée par sa profession d'avocat, Alexandre Balkany, le fils loyal aux mensonges éhontés. Et puis, la villa fantôme de Marrakech dont personne ne veut reconnaître la propriété et l'opération des tours de Levallois. C'est la partie corruption, la plus difficile à démontrer pour l'accusation, mais aux yeux du parquet national financier, la chronologie éclaire le dossier. Mohamed Al-Jaber a obtenu des reports d'échéance au moment où il venait de payer une partie de la villa du Maroc. N'importe quoi, proteste Patrick Balkany, contre qui le ministère public requiert 7 ans d'emprisonnement et 10 ans d'inéligibilité, une peine nécessaire pour sanctionner cette atteinte au lien social, justifient les procureurs en insistant sur le comportement du maire de Levallois au cours de son procès. Il a évoqué la noblesse du métier, le dévouement des élus, mais la corruption, c'est la plus grave des atteintes à la probité publique, conclut-il. La négation de la démocratie locale.
Florence Thiom, depuis le tribunal de Paris, le procès Balkany reprendra lundi avec les plaidoiries de la défense. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, ne veut plus poursuivre les 13 jeunes mineurs délinquants, sauf exception. La garde des Sceaux souhaite fixer à 13 ans le seuil d'irresponsabilité pénale. Sa réforme de la justice des mineurs pourrait arriver en Conseil des ministres à la mi-septembre. Alors si globalement, les syndicats de magistrats approuvent ce seuil de 13 ans, la droite, elle, dénonce le laxisme supposé du gouvernement face aux mineurs délinquants. Invité de ce journal, l'ancien magistrat Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir.
Bonsoir.
Philippe Bilger, Nicole Belloubet veut mettre en place une présomption d'irresponsabilité pour en finir avec ce qu'elle appelle une singularité française. Est-ce que vous comprenez cette logique ?
Je la trouve discutable. Ça n'est pas parce que le projet Belloubet est la suite directe du projet Taubira que je le discute, entendons-nous bien. Mais je trouve qu'au moment même où la délinquance des mineurs devient à la fois de plus en plus précoce et de plus en plus violente, il est paradoxal de supprimer, cette possibilité de mesure éducative lorsque le juge considérait que le mineur était capable de discernement. Je trouve que c'est très surprenant. J'ajoute que cette présomption d'irresponsabilité à partir de pour des mineurs de moins de 13 ans, bien sûr, permettra tout de même des prises en charge dans le cadre d'assistance éducative judiciaire, mais enlèvera un moyen qui était très utile pour les juges des enfants confrontés tout de même à des transgressions, même de la part des mineurs de 13 ans. Le point de désaccord fondamental, il est lié à l'instauration d'une procédure en deux temps qui me paraît être totalement inadaptée à la délinquance des mineurs.
Oui, mais la ministre invoque la Convention internationale des droits de l'enfant signée par la France pour justifier son choix.
Oui, alors je sais bien qu'elle se réfugie, et probablement en vertu d'une conception très abstraite de l'état de droit, derrière ces conventions, mais peut-être faut-il accepter que, au fond, elles ne soient pas battues en brèche systématiquement dans leur substance, mais que lorsqu'une mesure nationale paraît nécessaire, ou au moins qu'elle mérite d'être maintenue et sauvegardée, on pourrait peut-être privilégier l'aspect politique et technique sur une fidélité un peu formelle à des conventions qui ont mérite d'être respectées, mais qui ne sont pas des tables de la loi.
Tout de même, Philippe Bilger, dans quelle mesure, d'un point de vue juridique, peut-on considérer qu'un enfant de moins de 13 ans est responsable de ses actes ?
Alors, entendons-nous bien, je n'ai pas, dans ma carrière, j'ai été responsable évidemment des assises en tant qu'avocat général, je n'ai jamais eu affaire directement à une justice des mineurs. Mais j'ai la faiblesse de penser qu'aujourd'hui, une délinquance de plus en plus précoce et de plus en plus violente ne rend pas complètement absurde l'idée qu'un mineur de moins de 13 ans puisse être incriminé pénalement. J'ajoute, et ça c'est une donnée très importante, que la certitude dorénavant qu'il y aura une irresponsabilité pénale pour les mineurs de moins de 13 ans entraînera avec une sorte de pragmatisme dangereux de la part de malfaiteurs chevronnés la présence de mineurs de moins de 13 ans qui finalement, grâce à ce statut, permettront une sorte, non pas d'immunité, mais de plus grandes difficultés pour les poursuivre à des groupes qui pourtant créent des ravages.
Si ça n'est pas 13 ans, il faudrait selon vous un autre âge pour l'irresponsabilité pénale ?
Moi, j'aurais laissé les choses en l'état, si vous les quittez. Bien sûr, je considère qu'on aurait pu faire une réforme du droit des mineurs qui aurait entraîné moins d'éducatifs et plus de répressifs à cause de l'évolution que j'ai décrite. Mais au fond, pourquoi ne pas rester dans le statut actuel qui permet à un auteur d'infraction de moins de 13 ans écope d'une mesure éducative si le juge le considère comme capable de discernement. Ça me paraissait une disposition qui aurait pu rester en l'état.
Oui, parce que de toute façon, un délinquant de moins de 13 ans ne va jamais en prison.
Non, absolument, et heureusement. Mais vous voyez, je me permets d'insister, en dépit d'un humanisme qui paraît me contredire, sur le fait qu'il n'est pas complètement absurde de garder sous le coup délictuel des mineurs de moins de 13 ans qui sont ou peut-être créateurs d'infractions ou sollicités par des majeurs qui ont des intentions évidemment gravissimes avec eux.
Dernière question, Philippe Bilger, d'une façon générale, comment vous expliquez ces visions antagonistes de la justice entre prévention et répression ? Le consensus politique est impossible dans ce domaine ?
Le consensus politique est possible, mais encore faut-il sortir, à mon sens, d'un humanisme abstrait et généreux et accepter de faire une conciliation entre le pragmatique de la répression et l'humanisme de la philosophie. Je constate que Nicole Belloubet continue Christiane Taubira et si vous me permettez un aperçu politique, je n'ai jamais discuté le fait que ce pouvoir, notamment dans ces domaines-là, dans le régalien largement entendu, soit largement imprégné de gauche et pas seulement de droite, contrairement à ce que la droite prétend.
Philippe Bilger, magistrat honoraire, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le Sénat a refusé d'accorder sa confiance à Édouard Philippe. La Haute Assemblée a émis un vote négatif après le discours de politique générale du Premier ministre qui avait reçu hier le soutien de l'Assemblée nationale. Édouard Philippe voulait ce vote du Sénat où l'opposition est majoritaire, histoire de compter ses soutiens après la débâcle du Parti Les Républicains aux Européennes. Dans le détail, on constate que la plupart des sénateurs LR se sont réfugiés dans l'abstention. Rosalie Lafarge, quelle leçon politique faut-il tirer de ce vote du Sénat ?
Ce n'est pas vraiment une surprise, Édouard Philippe le sait. Au Sénat, le contexte n'est pas le même qu'à l'Assemblée. Il n'est pas ici en terrain conquis.
En vous demandant d'approuver cette déclaration de politique générale, je ne vous demande ni un blanc-seing pour la politique de mon gouvernement, ni évidemment un quelconque ralliement à la majorité. Je vous demande de dépasser des clivages et des différences que je respecte, mais qui ne me semblent plus aujourd'hui les plus importants.
Mais cet appel à l'unité ne suffira pas. Sur 345 votants, 181 sénateurs s'abstiennent, plus de la moitié des centristes, et vous l'avez dit, la très grande majorité des LR, Dominique Estrosi Sassone, est sénatrice Les Républicains.
Depuis 2 ans, nous avons été trop habitués à ce décalage entre des mots forts et des actes faibles. Autrement dit, cette abstention, c'est tout, sauf un chèque en blanc. Nous jugerons sur pièce, texte par texte.
Pas d'opposition systématique pour les sénateurs LR, pas d'affrontement frontal. Ils marquent ici leur différence avec leurs collègues députés. Opposition plus franche, en revanche, de la part de 93 sénateurs qui votent contre, dont une grande partie des socialistes, emmenés par Patrick Kanner.
La présentation de l'acte 2 se passe comme si la crise sociale n'avait été qu'un entracte. Vous êtes remontés sur votre nuage de certitude. Vous nous appelez à dépasser nos partis dans l'intérêt du pays. Mais lorsque nous le faisons sans qu'on demande d'abjurer un quelconque engagement, comme sur les aéroports de Paris, vous nous le reprochez. Permettez-moi donc de trouver vos injonctions à vous soutenir quelque peu opportunistes.
Pour cet exercice inédit, ce discours face à un Sénat contrôlé par la droite à qui il a réservé ses annonces sur un nouvel acte de décentralisation, le Premier ministre n'obtient donc pas la confiance. Un vote certes très rare sous la 5e, mais non contraignant pour le gouvernement.
Rosalie Lafarge, merci. Le temps demain sera contrasté. Toujours des orages à l'est des régions méditerranéennes à la frontière allemande. D'ailleurs, le ciel se partagera entre nuages et éclaircies, mais la pluie reviendra sur le sud ouest dans l'après-midi. Température minimale comprise entre 8 et 22 degrés du nord à la Méditerranée. Les maximales évolueront entre 18 et 31 degrés, voire 35 en Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.